France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On n'a pas fini et on ne finira jamais de parler dans Les pieds sur terre de l'aide sociale à l'enfance, de ses errances, de ses folies, mais aussi de ce qui marche, qui tient la route et sauve des vies. La fameuse ASE qui s'occupe des enfants en difficulté pour mille raisons différentes, mais qui reviennent toujours à cela. Des enfances brisées, maltraitées, des innocences bafouées, des premières années piétinées qui comptent tellement pourtant. Protéger les mineurs, les petits et les ados en danger avéré ou potentiel, quitte à les soustraire à leur famille, à prendre des décisions dures, parfois injustes, musclées, voire arbitraires. Nous avons consacré ces dernières années plusieurs épisodes à ces enfants placés en foyer ou en famille d'accueil, avec des récits poignants ou édifiants, avec des impasses ou des happy ends. Récemment, les enfants de Belfond pour le Feel Good, mais aussi l'histoire de celui qui lutte jusqu'à l'épuisement depuis des années pour faire changer la loi, le fameux Lies Loufoque. Aujourd'hui, on poursuit dans cette veine avec de l'espoir et on vous raconte une histoire qui met en jeu des institutions qui finissent par se parler. L'éducation nationale d'un côté, l'ASE de l'autre, une proviseure au grand cœur et un éducateur moins avisé. C'est l'histoire de Madiba qui, comme l'homme dont il porte le surnom, Nelson Mandela, mériterait lui aussi le prix Nobel de la paix. Un récit recueilli par Rémi Dibowski-Douette.
Je m'appelle Madiba Ousmane Girassi, j'ai 29 ans, je vivais en Guinée et je suis arrivé en France à 9 ans et j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé. Et 10 ans plus tard, je m'apprête à devenir ce que j'ai toujours voulu. Dans quelques mois, je devrais prêter serment et devenir avocat. Après tout ce que j'ai pu traverser, ça relève du miracle. Moi, j'ai réussi à passer les mailles de filet. Mais il y a des milliers d'enfants placés que leur vie a été bousillée par certains adultes irresponsables. En Guinée, ma maman divorcée, parce que mon père a divorcé ma mère, moi j'avais un an et demi. Elle n'avait pas de métier qualifié, ma mère ne sait ni lire ni écrire, donc elle vivait des petits boulots. Elle a fait des ménages, elle a lavé des vêtements pour des personnes, pour pouvoir payer l'appartement, pour nous nourrir, pour nous habiller. En tout cas, elle a fait de sorte que je ne manque de rien. Et donc j'avais cette protection maternelle. J'avais ce cocon familial où ma mère me choyait, me berçait. J'étais tout le temps avec elle. Et elle m'amenait à l'école toute seule. Elle venait me chercher aussi toute seule. Et un jour, mes instituteurs et mes institutrices ont interpellé ma mère en lui disant que votre enfant a des potentiels intellectuels qui peuvent les aider à aller très loin. Et si tu peux l'aider, ça serait très bien. Parce qu'on a vu des garçons passer ici. À l'arrivée à l'adolescence, ils se sont perdus dans la délinquance, dans la drogue, ils ont dérouté. Donc il y a toutes les chances, si votre enfant grandit ici, qu'il bascule aussi dans la délinquance et dans la drogue. C'est vrai que l'Afrique a sa particularité, parce qu'une femme divorcée, c'est une femme délinquante. En tout cas, elle est vue comme ça dans la société africaine. Mais surtout, un enfant élevé par une femme solo, c'est un enfant perdu. C'est un enfant qui n'a pas le repère de son père. Donc, ils sont stigmatisés. En tout cas, c'est comme ça, ça me tombait en fait dans les oreilles de ma mère. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup marqué ma mère. Et c'est là qu'elle a commencé à mettre de côté. Elle a tout sacrifié pour moi, tout, pour que j'aie une vie meilleure. C'était tout son rêve. Et elle a mis toute son énergie pour que cela arrive. C'est pourquoi elle allait travailler en tant que porteur de bagages. Elle a même fait la gardienne pour les gens fortunés, pour mettre l'argent de côté, pour m'amener en France. Parce qu'elle a dit que la France est un grand pays. Elle saura te donner le meilleur. » C'est ainsi qu'elle a entendu parler d'un homme d'affaires qui faisait des affaires entre la France et la Guinée. Il a confié à ma mère qu'il avait de la famille en France et qu'il pouvait me confier à cette famille-là une de ses cousines qui vit aussi en France. Donc ma mère a négocié avec lui pour m'amener en France. Donc il m'a amené en avion, il m'a envoyé chez sa cousine qui était mariée à un homme à Bobigny et c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas en France. Dans un petit appartement très exigu, je dormais à même le sol parce que le couple avait 5 enfants. Donc, je dormais par terre. Et il y avait beaucoup de violence conjugale. Le monsieur et la femme se battaient tout le temps, il n'y a pas d'heure. Ils peuvent se battre même de nuit avec des cris. Et c'était à répétition, à plusieurs fois. Donc, moi, ça m'a traumatisé. Et ça s'est répercuté sur ma performance scolaire. Au fur et à mesure que le temps passait, ben, en fait, mon attention baissait et je commençais à dormir sur ma table. Moi, quand j'arrive, les autres étudient, moi, je pose mon cartable, je commence tout de suite à dormir parce que je ne dormais pas à la maison. Et moi, l'école était devenue un lieu de refuge parce que là-bas, c'était plus calme, en tout cas, pas de bagarre. Donc, moi, c'était devenu mon lit. Dès que j'arrivais, je dormais. Et ma maîtresse s'est intéressée à cela parce que ce n'était pas habituel. Elle me posait des questions, pourquoi tu dors? Moi, je racontais rien parce que j'avais peur des représailles. S'ils apprennent que c'est moi qui raconte des choses, là, déjà, ils vont me frapper. Donc, j'ai rien dit. Et la maîtresse n'est pas arrêtée là. Elle a fait des signalements. Les agents de services sociaux sont venus à mon domicile. Ils m'ont trouvé, ils m'ont demandé où je dors. J'ai montré le sol. Je dors ici. Ils m'ont demandé où je mangeais. C'est par sol, en fait. Ils mettaient des journaux papier par terre. Ils mettaient le riz là-dessus. On se mettait autour. Vraiment comme une table à manger. Et c'est là-dessus, ils mettaient la nourriture. Donc, nous, on mangeait à la main aussi. C'est comme ça, on mangeait. Donc, quand les adultes m'ont posé la question où vous mangez, j'ai montré le sol aussi. Voilà. Ils sont partis ce jour-là. Le lendemain, ils sont venus le matin avant que je ne parte à l'école. Ils m'ont demandé où sont mes affaires. Moi, j'ai montré deux, trois affaires et tout. Ils ont pris, ils ont mis dans le sac. Et après, ils m'ont embarqué dans la voiture à l'arrière. Ils m'ont envoyé dans un foyer à Paris où je suis resté au moins 3 semaines. Plus tard, ils m'ont envoyé à Périgueux, c'est en Dordogne, où j'ai été placé dans une famille d'accueil. Dans cette famille d'accueil, je suis resté 1 an. C'est un couple qui n'avait pas d'enfants, mais là-bas, ça s'est très mal passé. Parce que quand ils partaient en vacances tous les deux, ils me laissaient garder tout ce qu'il y avait à la maison. Les poules, les chats, il y avait un chien aussi. Ils avaient 2 moutons. Donc moi, j'avais 11 ans. Je m'occupais de ça, tout seul, à gérer ça. À l'époque, moi, je sentais la solitude, je sentais l'isolement. J'avais pas la conscience de l'anormalité de cette situation en ce moment-là. C'est les voisins qui ont remarqué cette situation. Ils ont fait aussi un signalement. Donc, c'est grâce à eux que les services sociaux sont venus aussi me prendre dans cette famille d'accueil-là pour m'emmener dans une autre famille d'accueil où là aussi, ça se passait très mal. Cette fois-ci, eux, ils avaient un fils qui était majeur à l'époque, qui me détestait. Un jour, on était à table. Ils m'ont servi à manger. C'était la soupe, je m'en souviens. Il a balancé ma soupe. Parce qu'il était furieux. Il me dit, qu'est-ce que tu fais à table ici? Tu devrais manger à côté, pas ici avec nous. Et tout. Il s'est déplacé de sa chaise, il est venu vers moi, il s'est arrêté comme ça, tu dégages, tu vas t'asseoir là-bas, tu vas manger là-bas. Et je me suis levé, je suis allé manger à côté. Enfin, bon, j'ai pas mangé la même chose qu'ils avaient ce jour-là, sa maman m'a donné du pain. Ses parents, je sais pas si ses parents l'osent pas, mais ils ont rien dit. Je les demandais pas de m'aimer, s'ils peuvent pas m'aimer, mais au moins de me protéger, parce que c'est pour cela que je suis là. Donc je me sentais en danger en fait. Cette expérience était très traumatisante. J'ai pleuré de nuit, j'avais personne à qui parler. J'avais peur que je le croise, il me tape. Même de son regard, j'avais peur de son regard. Toujours un regard menaçant. Toujours. Et ça, jusqu'à présent, je l'ai encore dans la tête. Ensuite, j'ai été placé dans un foyer socio-éducatif à Périgueux, toujours en Dordogne. Là, les choses ont un petit peu changé. Parce qu'il y avait d'autres enfants placés aussi qui étaient là, qui venaient de tous les horizons. Il y avait des Maliens, des Sénégalais, les Bengalis, plutôt les Afghans. Mais c'était pas la rose là-bas aussi non plus. Parce que là-bas aussi, j'ai rencontré des éducateurs dévoués à leur métier, mais d'autres alors, ils n'en avaient rien à foutre en fait des enfants placés. Rien du tout. J'ai été scolarisé à Sarlat. J'habitais à Périgueux. En voiture, faut compter 1h30 de route. Donc j'étais interné. Ça veut dire que je partais le lundi, je restais jusqu'au vendredi, je rentrais le vendredi soir. Mais là, même pour aller me déposer à la gare pour prendre mon train, ils me laissaient faire tout seul. Un gamin de 12 ans qui se débrouille tout seul, il se lève à 5h du matin, imaginez, hein, aller prendre son bus, préparer sa valise, préparer son petit déjeuner, préparer ses petits casse-croûtes et partir tout ce chemin-là. Sans l'accompagnement, moi parfois on me demande même pas comment ça se passait. Il venait dans mon école lorsqu'il y a la réunion parents-prof. Moi c'est comme ça, j'ai passé mes scolarités, mais je n'ai reçu aucune affection, pas d'amour, pas de suivi. Il y avait personne à qui me confier, moi. Si j'ai envie de parler, faut que je garde pour moi. On a été 80 enfants placés là-bas. Il y avait zéro psychologue. Qui peut recueillir en fait tes paroles, qui peut venir te demander, Allah Ousmane, comment ça s'est passé? On te demande juste, ah ben c'est l'heure de manger, on passe à table. Le seul adulte qui est là, c'est le cuisinier. Il vous apporte le plat, il fait une liste pour ceux qui font le débarrassage en fait, et ceux qui lavent la table. Dans la liste, si tu as ton nom ce jour-là, c'est toi qui débarrasse. C'est tout, il n'y a pas d'interlocuteur. Ça, tu prends ça comme de l'abandon en fait. Moi, en fait, les périodes de Noël, c'est les périodes que je détestais. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait personne. Tous les Noëls que j'ai passés là-bas, c'était les périodes les plus difficiles de ma vie. Chacun avait un éducateur spécialisé. Eux, ils passaient dans leur famille. Nous, on était abandonnés là-bas, en fait. Le cadeau de Noël, on le recevait soit le 3, le 4, le 5, quand ils reprenaient, en fait, le travail. Et c'est des cadeaux auxquels on n'a aucune idée. Soit c'est un stylo, c'est un pantoufle. Moi, je m'en souviens. 3 Noëls de suite, c'était des pantoufles, en fait, des comme ça. D'ailleurs, le dernier pantoufle qu'ils m'ont donné, c'était plus petit que mon pied. Tout cela est accompagné par l'indifférence, en fait. Et ça fait mal d'un enfant qui grandit comme ça, sans affection, sans attention. J'ai eu la chance vraiment d'avoir des bonnes notes à l'école. Je me suis rendu compte à un moment donné que si je veux m'en sortir, c'est là, à l'école. Je n'ai pas de choix. La moindre erreur là-bas, c'est fini, c'est foutu. Et donc, je me suis mis à travailler. Je suis devenu studieux et mes résultats ont compté. Mes profs disaient bien de moi. Ils m'ont élu délégué de classe depuis la seconde jusqu'en terminale. Et l'année de mon baccalauréat, c'est là mon calvaire a commencé, l'année de mon baccalauréat. Alors, il y a un moment clé dans le foyer où j'étais placé. Ils appellent ça l'entretien d'orientation avant le bac. C'est-à-dire, c'est un entretien entre l'enfant placé, le jeune, et les adultes. La direction, l'éducateur référent et tous les autres éducateurs. Tu viens défendre ton projet professionnel devant eux. C'est là que ton avenir se décidera après le bac, si tu obtiendras un accompagnement par un contrat jeune majeur ou non. C'est un contrat que le jeune a passé avec le département pour continuer à l'accompagner financièrement. C'est-à-dire ton appartement, tes études et tout le reste. Si ton projet professionnel ne convient pas, tu n'as pas de contrat jeune majeur, ton placement s'arrête, la prise en charge s'arrête automatiquement. Parce qu'à 18 ans, il n'y a plus d'obligation de te prendre en charge. À 18 ans, c'est la rue. Et moi, 2 mois après le bac, je serai déjà majeur. J'aurai 18 ans. Alors moi, cet entretien-là devrait arriver. Mes amis me disaient, quand est-ce que tu passes cet entretien? Un matin, on me dit, demain à 14h, t'as rendez-vous. on te demande d'abord d'écrire ton projet professionnel. Ensuite, tu passes l'entretien. C'est un parterre d'adultes, comme ça. Ils m'ont dit, on voit ton résultat, t'as un bon résultat. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu veux faire après le bac? Je les ai dit, j'ai envie de faire des études de droit, j'ai envie d'aller à la fac de droit. Et là, mon éducateur spécialisé était en face de moi, le directeur était là, tous ses collègues étaient là, il m'a regardé et me dit, mais non, c'est impossible. Les études de droit sont faites pour des personnes normales. T'as intérêt à chercher une autre voie. L'entretien s'est arrêté là. Je ne m'étais pas rendu compte ce jour-là que cette phrase est d'une violence inouïe. Ensuite, mon éducateur est venu me voir et dit, je pense que le projet que tu nous as dit, c'est une folie. Parce qu'à 18 ans, c'est fini, il n'y aura pas de contrat jeune majeur pour toi. Et toi, étant pas né ici, ça serait mieux que tu choisisses une filière professionnalisante tout de suite, tu travailles, tu commences à gagner de l'argent et tu as ton papier. Si tu fais pas ça, tu n'as pas de papier, mais tu n'as pas de métier et tu n'as pas de contrat jeune majeur. Je lui dis alors, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Une boulanger, ça serait très bien, c'est très demandé. Et jusqu'à présent, j'avais 15 de moyenne. Moi, qu'est-ce que je te conseillerais? Si tu veux, on peut refaire ton CV, on demandera un niveau pour toi. En ce moment, quand il me dit ça, moi, je rêve d'être juge. Parce que de tout mon placement, il y avait une seule personne que je voyais à peu près tous les mois, c'était la juge des enfants. C'est elle qui décidait de tout. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment on fait pour être juge? Elle m'a expliqué qu'elle a fait des études de droit, elle a passé le concours, elle est devenue juge. Et c'est ces études-là qui lui donnent le pouvoir de décider pour moi et tout. Je lui ai dit, ah ben d'accord. Je lui ai dit, ben écoute, je vais étudier, je vais faire comme vous aussi peut-être un jour. C'est là vraiment est né mon projet de devenir juge. Le foyer est géré par l'ASE et chaque enfant placé a un référent inspectrice générale de l'aide sociale à l'enfance. Elle, je l'ai écrit une lettre. Je l'ai expliqué mon projet professionnel en relatant un peu tout ce qui s'est passé dans l'entretien et ce que je veux faire après mon bac parce que peut-être qu'elle, elle pourra être sensible à mon projet et accorder un accompagnement par un contrat jeune majeur outre leur décision. C'est elle qui avait le pouvoir de décider. Et la lettre n'est pas partie. Au foyer, c'est un filtrage. Tu ne peux pas t'adresser à l'ASE sans passer par eux. Si tu écris une lettre, il faut la donner à eux, sans eux qui enverront la lettre. Cette lettre que j'ai écrite, quand ils ont vu ça, ils ont bloqué la lettre. Mais le basculement de tout ça, c'était à l'école. Moi, à mon époque, c'était APB. APB, c'est une ancienne application pour demander en fait les inscriptions à la fac. 3 mois avant le bac, vous faites vos demandes dans les universités d'abord, où vous voulez y aller après le bac. Donc moi, ce moment-là, c'est mon professeur principal, M. Bess, qui a organisé dans une salle d'informatique où elle nous met tous devant l'ordinateur pour faire nos demandes post-bac. C'était un lundi matin. Tout le monde était en train de taper ses vœux. Bon, lui, il surveillait, il nous montrait comment faire et tout. Moi, j'ai mis mon code pour ouvrir en fait l'ordinateur, mais je n'ai rien fait. Rien. Pendant 3 quarts d'heure. Il a plusieurs fois passé derrière moi. À un moment donné, il s'est arrêté. Et il me dit, mais Madiba, tes amis ont fini, pourquoi tu le fais pas? T'es bloqué quelque part et tu veux que je t'aide? Et là, j'ai pleuré. Parce que j'avais encore cette phrase de mon éducateur référent me disant que les études étaient faites pour des personnes normales, pas pour moi. Donc, je peux pas faire cette étude. Donc, j'ai pas fait la demande APB. Mais j'ai pas eu le courage d'expliquer ça à M. Bess ce jour-là. Parce que j'avais peur de représailles. Je me dis, si je lui dis, la nouvelle va remonter à mon foyer, eh bien, ça va tout capoter. Ils me donneront pas même l'option de boulanger qu'il m'a proposé. Peut-être qu'ils me donneront même plus ça. Donc, j'ai rien dit. Je faisais que pleurer. Il nous a demandé de regagner la classe. Tout le monde a fait sa demande. Ils étaient en train de parler. Ah, moi, j'ai demandé Bordeaux. L'autre dit, moi, j'ai demandé Paris. L'autre demande, moi, j'ai demandé Limoges. Moi, j'étais triste. Le lendemain, la CPE me convoque à son bureau pour me demander ce que M. Best l'a expliqué, si c'était vrai, et voulait que je lui donne des explications. Tu restais pendant 15 minutes dans son bureau, j'ai pas osé lui dire pourquoi. Et il me dit, mais enfin, si tu fais pas, c'est que tu vas avoir ton bac, mais tu auras rien, parce que c'est, il y a une date limite. Mais j'avais peur de mon foyer, en fait, de dire des choses. Ça serait de la diffamation. Moi, j'avais pas envie de me retrouver à 18 ans dans la rue. Donc, je me suis tue. Une semaine plus tard, le lycée m'a convoqué dans le bureau du proviseur pour vraiment expliquer ce qui n'allait pas. Il y avait M. Bess, mon professeur principal, la CPE, le proviseur, les quatre adultes dans le même bureau pour savoir ce qui se passe. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. J'ai dit au foyer, quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire après le bac, je leur ai dit que je voulais aller à la fac pour faire des études de droit. Ils m'ont dit que ces études-là sont faites pour des personnes normales et que je ferais bien d'aller faire une boulangerie. C'est pourquoi je ne me suis pas inscrit. À ce moment-là, madame la proviseure, elle a tourné son ordinateur et me dit, viens t'asseoir là. Monsieur Bess accompagne-le, il fait sa demande. Ils m'ont forcé à le faire. Le lycée a fait une lettre, ils ont envoyé à madame l'inspectrice générale de l'aide sociale à l'enfance. Et une semaine plus tard, l'inspectrice générale de l'aide sociale à l'enfance nous convoque à son bureau. Moi et un de mes éducateurs, le référent bien évidemment. Il était accompagné par une de ses collègues, mon éducatrice aussi. Et là, l'inspectrice sort cette lettre du lycée. Il a demandé aux deux éducateurs qui étaient là, mais expliquez-moi, est-ce que ça c'est vrai ? Ils n'ont rien dit. L'inspectrice s'est tournée vers moi et me dit pourquoi je ne lui ai pas dit tout ça. Je lui ai dit si, je vous ai envoyé une lettre. J'ai écrit une lettre et j'ai donné à mon éducateur référent. Il était là, dans le bureau. Il s'est tourné vers lui et dit, ce qu'il dit est vrai. Il a été honnête, il a dit oui. Il dit la lettre, elle est où? Elle est au foyer. Elle s'est énervée. C'est moi qui décide, c'est pas vous. Elle a sorti tous mes bulletins de notes. Comment pouvez-vous demander à un enfant qui a ce résultat-là d'aller faire la boulangerie? Serait votre enfant avec ce résultat-là? Vous l'amènerez faire le métier de boulanger? Il n'a pas répondu. Comment il est au foyer? Comment il se débrouille? Parce que vous l'avez en quotidien depuis plusieurs années. Comment il est? Ils ont eu en tout cas cette honnêteté de dire il est vraiment irréprochable. Il est autonome. Il se débrouille. L'inspectrice générale l'a dit, il ira à la fac. Il m'a demandé quels sont les choix que j'ai faits. J'ai dit, j'ai choisi Bordeaux. Dès maintenant, commencez à préparer à lui trouver un appartement à Bordeaux. Et le jour que son baccalauréat sortira, il aura un contrat jeune majeur. Cette décision-là a tout changé. Moi, j'avais des amis. Ils étaient mais brillants. Il y en a trois qui voulaient être médecins. Intellectuellement, ils avaient les capacités. L'autre, je lui parle toujours. Il a fini bouché. L'autre a fini dans la construction de maisons. Alors, honnêtement, je ne suis pas en train de dire que ces métiers-là ne sont pas valorisants. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut laisser le choix, la liberté aux jeunes de décider leur avenir professionnel. Moi, c'est ça mon problème. Mais c'est révoltant en fait. Moi, c'est pourquoi quand on me dit « Attends, t'as réussi à passer par les émailles de filet », je dis « Mais à quel prix ?» Il y en a beaucoup de mes amis, en tout cas avec qui j'étais placé à l'aide sociale en France, ou d'autres qui n'ont pas eu le contrat jeune majeur. Pas parce qu'ils ne sont pas au niveau. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage que moi j'ai eu d'aller affronter au plus haut niveau ma situation. Ou peut-être certains éducateurs ont eu raison sur eux. Lorsqu'ils ont dit, tu peux pas faire ce projet-là, faut que tu fasses ce projet-là, c'est fini, ils sont arrêtés, là, ils ont suivi d'autres voies. C'est de gâchis. Et ces gens-là, à 18 ans, leur contrat majeur s'est arrêté. Du jour au lendemain. Je connais 2-3 personnes qui ont dormi à la rue pendant au moins 6 mois. Et il y en a un qui est venu vers Bordeaux quand moi j'étais dans mes études. Je l'ai rencontré un jour à la place de la Victoire. J'ai dit, qu'est-ce que t'es devenu? Il dit, rien, SDF. J'ai dit, viens manger chez moi. On est venu dans mon petit appartement. J'ai fait à manger, on a mangé. Il en veut, laisse aussi à l'enfance. Il m'a dit, ils m'ont détruit ma vie. Il a la volonté, mais il ne peut plus rien. Il y a beaucoup d'autres jeunes que j'ai connus comme ça. Alors, ils ont un métier, mais c'est des métiers qu'ils n'ont pas choisis. Et je connais 2 qui sont suicidés. Quand j'ai appris ça, la mort, c'était vraiment dévasté. C'est un garçon bien qui était très volontaire. Il est allé boire de l'alcool, il a sauté en fait dans la Garonne. Et l'autre, sa soeur l'a hébergé quelques jours, et il savait plus aller. Lui, il s'est suicidé dans l'appartement de sa soeur. Les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfant, à l'État, laissent ses enfants s'abîmer. Comme ça. Parce que si ceux-ci-là étaient accompagnés, ne serait-ce que pour un an de contrat jeune majeur, ils se seraient en sortie. Et certains, ils vivent avec ce trauma. Moi, là, j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire. Depuis que ma mère m'a envoyé en France à 9 ans, c'était en 2005, je ne l'ai pas revue. Là, j'ai 29 ans, donc ça fait 20 ans que je n'avais pas vu ma mère. 20 ans. Et il y a quelques jours, elle est venue en France. Pour la toute première fois. Elle est arrivée le 17 décembre. Je me suis venu la chercher à l'aéroport. Après 20 ans, elle m'a reconnu tout de suite. La première phrase qu'elle m'a dite, elle m'a dit, mais t'as grandi. J'ai dit, ah. Je lui ai dit, normal, tu m'as pas vu depuis 20 ans. Elle a fondu en larmes. J'ai pas pu garder mes larmes, j'ai pleuré aussi. Et après, on est rentré à la maison où la première fois depuis 20 ans, j'ai passé Noël avec ma mère. Donc, c'était un moment de bonheur. Elle est très fière de moi. C'est la phrase qu'elle me dit le plus. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a bouleversé. On discute et elle me dit, tu sais, même si je meurs aujourd'hui, je dormirai en paix. Parce que je me rends compte que ta vie ne dépendra de personne désormais. Elle ne dépendra de toi. Et moi aussi, j'ai pleuré.
C'était Madiba, Des terres comme jamais, un reportage de Rémi Dibowski doit être réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Madiba Ousmane Guirassi, à Valentin Rémy qui est l'attaché de production des Pieds sur Terre et à Mina Morel, notre stagiaire.